France Inter. Bonjour tout le monde et bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Ah, la timidité. Elle s'invite souvent sans frapper, tapie dans l'ombre des mots que l'on n'ose pas dire, des gestes que l'on retient, des regards que l'on détourne. Pour certains, elle se vit comme un fardeau discret, un empêchement sourd qui freine les élans et verrouille les portes du quotidien. Pour d'autres, elle est une manière singulière d'habiter le monde à contre-courant de l'agitation ambiante. Mais d'où vient-elle? Quelle est la part d'innée, celle que l'on porte dès l'enfance et celle façonnée par nos expériences ou nos peurs apprises? Ensemble, ce matin, nous verrons que la timidité, loin d'être seulement une entrave, peut aussi devenir une couleur rare dans la palette de nos personnalités, un signe de délicatesse, une capacité d'écoute, un sens particulier du détail et de la nuance. Une question se pose alors, peut-on se défaire de cette compagne un peu embarrassante quand elle nous empêche? Et mieux encore, comment faire éclore une force là où pendant longtemps nous n'avions vu que faiblesse? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre ensemble et on attend vos témoignages au 01 45 24 7000 ou par message sur l'appli Radio France. Nous sommes le lundi 8 août. Grand Bien vous fasse en direct tout l'été pour vous accompagner.
France Inter. Grand Bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
La timidité, c'est, je pense, ne pas oser aller vers les autres et s'exprimer et demander de l'aide. Enfin, voilà tout ça. Quoi.
La timidité, c'est quand même un petit peu un défaut. On n'arrive pas à exprimer et on n'arrive pas à communiquer avec les autres si on se réserve trop.
J'avoue que parfois, quand je vois les gens être beaucoup plus sociables, ça donne envie quand même. Tu dis « Ah, ouais, j'aimerais bien être comme lui, parler avec tout le monde, sans filtre. »
Mais je peux être timide quand je ne connais pas les personnes.
Quand on est un peu extraverti, parfois on fait des choses et on réfléchit après. On se dit « Mince !»
Ça évite d'être trop volubile à tort et à travers. Ouais, il y a une part de réserve qu'il est bon d'avoir.
On fait plus attention à tout parce que notre société évolue plus par affinité.
Si on se renferme sur soi-même parce qu'on est timide, bon, on ne fera rien.
Je voudrais bien marcher dans la rue, parler à tout le monde.
Je suis comme ça, donc faut pas en avoir peur, et honte.
Un micro-trottoir réalisé pour Grand Bien vous fasse par Eléa Cor, Noélia Filiol et Elina Garcia pour répondre aux questions que l'on se pose ce matin pour définir ce trait de caractère qui, pour chacun d'entre nous, prend les traits d'une personne plus ou moins proche de notre entourage. Je suis, pour le coup, entouré de volontaires qui ont chacun un attrait pour ce trait de caractère. Bonjour professeur Antoine Bellisolo.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, chef de service au CHU Henri Mondor à Créteil. Vous avez participé à de nombreux ouvrages de psychologie, dont deux qui traitent de ce thème ce matin. Ne plus rugir et accepter le regard de l'autre, la nouvelle peur des autres, traque, timidité et phobie sociale, tous deux aux éditions Odile Jacob. Bonjour Clara De Giovanni.
Bonjour.
Vous êtes avec nous à distance ce matin, merci de prendre ce temps. Vous êtes journaliste pour Philosophie Magazine et je crois savoir que c'est un thème, la timidité, qui vous inspire beaucoup. Donc on va vous entendre ce matin. Bonjour Nicolas Rebaud.
Bonjour.
Vous êtes avocat au barreau de Paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle, aussi à l'aise en plaidoirie que sur les plateaux de télévision pour défendre vos clients. Mais vous n'en êtes pas moins un grand timide. On va s'appuyer sur votre témoignage ce matin pour décortiquer ce trait de caractère. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez nous donner un adjectif pour qualifier la timidité selon vous ?
Je pense que c'est une pudeur poussée à son paroxysme.
C'est intéressant. On va en débattre ensemble ce matin. Mais pour commencer, professeur Antoine Pellisolo, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous définissez la timidité au sens psychologique du terme ?
Oui, alors on pourrait dire pour commencer que la timidité, c'est l'appréhension du regard de l'autre, donc dans les situations d'interaction, on va dire situation sociale, moi je préfère dire situation relationnelle, donc une appréhension, et derrière ça on peut avoir tous les degrés de gêne que ça peut provoquer, une timidité légère comme une timidité plus forte. Et l'appréhension, elle se manifeste avant et un peu pendant une relation, et en fait, la timidité, on va dire, réelle au sens non pathologique, elle n'est pas gênante réellement, donc elle ne va pas vous inhiber, elle ne va pas vous gêner pendant la relation, alors qu'une timidité qui peut devenir plus ou moins pathologique, c'est celle qui va vous empêcher d'agir ou vous perturber dans votre relation avec les autres. Donc il y a toute une gamme de degrés. On parle d'un axe en fait de l'anxiété sociale qui va du normal au pathologique avec tous les degrés entre les deux.
La timidité et l'anxiété sociale, c'est différent ou c'est juste que l'anxiété sociale, c'est le degré maximal?
Oui, alors c'est plutôt un continuum, comme on dit, une continuité entre ce qui est normal. Alors, peu de gens sont absolument pas timides.
Oui, c'est ce que j'allais vous demander. On est tous un peu timides.
Voilà. Non, il y a peut-être 10 ou 15%, comme un peu tous les traits de personnalité, de personnes qui vous disent non, aucun problème, jamais problème avec le regard des autres. Bon, peut-être. Et dans certains cas, c'est peut-être pas tout à fait bien non plus. Mm-hmm. Mais en tout cas, c'est une faible proportion. Après, il y a le tout un chacun qui peut être timide dans certaines situations ou qui a pu l'être dans le passé. Donc ça, c'est normal aussi. Il y a le degré au-dessus qui est une timidité un peu récurrente. Et souvent plutôt dans les âges jeunes et ensuite qui s'améliore avec le temps. Ça, c'est le profil classique de la timidité, on va dire, simple. Et puis le degré d'au-dessus, effectivement, anxiété sociale, phobie sociale, on parle aussi de personnalité évitante au maximum. Et là, on peut dire que c'est une timidité plus intense en termes d'intensité, de gravité, de gêne. Et puis, il y a des différences un peu qualitatives. On pourrait revenir sur les mécanismes qui ne sont pas tout à fait les mêmes au plan psychologique. Mais il y a quand même cette notion de continuité, ce qui veut dire qu'on peut tous être concernés, que les timides, les grands timides, les phobiques sociaux, les personnes qui souffrent de phobie sociale, c'est comme ça qu'on dit, ne sont pas des extraterrestres. On a tous à peu près les mêmes bases psychologiques. Simplement, il y a des variantes dans la population et des gens qui ont eu souvent aussi des expériences ou des apprentissages qui les ont conduits sur une voie.
Mais ça, on va en parler. Quelle est la part, c'est ce que je disais tout à l'heure, la part d'inné et d'expérience. Pour vous, Clara De Giovanni, il y a une nuance qui fait toute la différence entre timidité et introversion. Expliquez-nous.
Alors, je dirais que la timidité, ça peut être un caractère, comme on disait précédemment, ou un état, ou un événement qui fonctionne un peu par pic, par crise. La timidité est un phénomène visible, assez décisif, qui peut marquer durablement la mémoire. C'est un peu la poésie qu'on récite devant tout le monde et ce fameux blanc qu'on a en plein milieu devant toute la classe et qui va se répéter. Donc il y a une espèce d'événementialité de la timidité qui surgit un peu par pic et par crise. Et ça peut aussi être un stigmate, quelque chose qu'on nous colle sur le dos sans qu'on soit tout à fait d'accord avec cette définition de nous-mêmes. Tandis que l'introversion, il y a quelque chose de, pour moi, beaucoup plus consenti, beaucoup plus joyeux. Être tourné vers soi-même, vers son propre monde intérieur. Et on peut définir l'introversion parfois comme un aménagement de cette timidité. C'est des gens qui vivent très bien leur timidité, qui sont tournés vers eux-mêmes. Et donc, je dirais que la grande différence, c'est la question de la souffrance. Je pense qu'on peut souffrir de cette timidité, surtout de ces épisodes les plus marquants, tandis qu'on peut tout à fait être à l'aise avec son caractère introverti.
Alors, c'est vrai que on utilise ces mots parfois pour dire la même chose, donc c'est bien de les définir ce matin, la timidité, l'introversion. On dit souvent aussi que la timidité est un trait de caractère. Professeur, est-ce que c'est une erreur?
Non, c'est tout à fait exact. Dans les profils de personnalité, il y a le trait de prudence sociale, donc de timidité classique, qu'on voit chez les enfants très jeunes souvent apparaître, qui va ensuite évoluer dans un sens ou dans un autre. C'est une des variantes, encore une fois, du rapport à l'autre. Et dans d'autres développements d'espèces humaines, évidemment, la relation sociale est centrale, et certains s'y accommodent d'une manière plus ou moins facile. Et on peut considérer aussi que cette prudence vis-à-vis du regard de l'autre, en fait, qui est liée à l'image qu'on a de soi-même dans la réalité et de l'appréhension qu'on a de ne pas être apprécié, de ne pas être intégré même au groupe, fait partie des règles sociales utiles. C'est-à-dire que chacun, à un degré plus ou moins fort, fasse attention à l'image qu'il a de nous autres. Mmh. C'est plutôt bénéfique pour le groupe,
social, la société. Oui.
Et donc, c'est ça qui fait que certains l'ont plus que d'autres, parce qu'on a besoin de variété dans la population générale.
Oui, heureusement. Quel est l'inverse de la timidité, finalement?
Alors, c'est une bonne question. L'inverse de la timidité, ça serait, si on était vraiment dans quelque chose de négatif, le désintérêt pour le regard de l'autre. C'est-à-dire le fait de ne pas accorder d'importance à regard de l'autre. Ce qui a par moment quelques aspects favorables, c'est-à-dire qu'on va agir de manière libre, mais souvent aussi c'est un petit désintérêt pour l'autre réellement. Donc faire attention à l'image qu'on donne de soi, c'est plutôt toujours un garde-fou qui peut être utile jusqu'à un certain degré pour pas être envahi par cette idée-là. Donc il y a aussi une autre inversion qui peut être vraiment problématique, c'est le fait d'être désinhibé en permanence, de pas faire attention du tout à soi-même. Ça c'est plutôt dans des états pathologiques.
Oui, c'est pathologique ça.
Voilà, alors ce qu'on voit dans un moment donné, par exemple dans un état d'ivresse, on peut être complètement désinhibé parce qu'on fait plus attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit. Ça n'existe pas vraiment en termes de traits de personnalité en dehors d'états de troubles graves de personnalité.
La timidité, c'est une sorte de garde-fou hein, finalement pour tout le monde, et elle est plus ou moins, elle s'exprime plus ou moins selon les personnalités, mais est-ce qu'elle est innée?
Alors, c'est toujours une des grandes questions en psychologie. Entre ce qui est inné et ce qui est appris, d'après les études scientifiques, et il y en a beaucoup maintenant depuis longtemps, on peut considérer qu'il y a une part, effectivement, de cette dimension, donc d'appréhension ou de retrait social, parce que, là encore, il y a plein de manières de le définir, qu'on voit apparaître vraiment très très jeune dans le développement des enfants, ce qu'on peut considérer donc comme vraiment constitutionnel, on peut dire, parce que dès les premiers jours, ou en tout cas les premières semaines de vie, on voit des enfants, en gros, qui sont pas timides, hein, parce que c'est pas comme ça qu'on peut l'appréhender, mais qui sont plutôt en retrait, qui ont plutôt tendance à être
inhibés,
avoir un comportement d'inhibition, c'est-à-dire qu'ils vont pas aller beaucoup vers l'autre, et qui vont être plutôt en retrait, et on le voit plus clairement à partir de 18 mois, par exemple. Et dans ces cas-là, on peut considérer que c'est très précoce. Alors de là à dire que, oui, il y a des études qui confirment que c'est un peu transmis, il y a une transmission génétique, c'est-à-dire
entre les parents et les enfants.
Mais c'est une part vraiment pas forcément mineure, mais environ un tiers de la timidité qui viendrait de ce que on vous a transmis.
Donc on n'est pas forcément timide parce que nos parents le sont, ça c'est ce que vous dites.
Voilà. Alors le problème c'est que souvent on est aussi élevé par ses parents, et donc ce que nous transmettent nos parents c'est aussi l'éducation, l'apprentissage et l'exemple qu'on donne. Donc ce qui vient des parents, ça peut être aussi bien de la génétique que de l'environnement, comme on dit, de ce qui est extérieur à soi. Et dans la timidité, comme pour beaucoup de traits de personnalité, on a, je vous dis, à peu près un tiers et au maximum 40-50% d'innés, et le reste c'est de l'acquis. Et donc ça veut dire qu'en gros on peut en faire ce qu'on veut. On a un tempérament de base, et puis après on peut, comme on le voit, en gros se forger sa manière d'être et des traits de caractère en fonction de son développement.
Des expériences de la vie aussi. Clara De Giovanni, ça vous inspire ce qu'on se dit?
Oui, sur l'inné et l'acquis, je pense qu'il faut différencier aussi le fait d'être timide et le fait d'être intimidé. Parfois, il y a des situations sociales assez déterminantes qui nous intimident sans forcément qu'on ait une timidité au départ. Et donc, il y a une dimension très sociale, voire sociologique dans la timidité qui est liée à la non-maîtrise des codes, de certains codes sociaux. Je pense par exemple aux transfuges de classe qui ont dû changer radicalement de milieu et qui se sont retrouvés à ne pas maîtriser certaines manières de parler, certains codes sociaux, qui ont été complexés par exemple par leur accent, des choses comme ça. Et donc, qui vont développer une timidité qui est tout à fait circonstancielle et qui est liée à leur trajectoire sociale. Et cette timidité-là est assez différente, je pense, de la timidité de caractère. Et on peut, si on sort souvent, comme on dit, de sa zone de confort, on peut se croire timide, alors que c'est simplement qu'on maîtrise pas certains codes. Je pense par exemple à Annie Ernaux dans La Place. Elle parle beaucoup de son père qui était très timide et qui avait cette espèce, elle dit, de raideur timide devant tous les gens qu'il jugeait importants. Et cette timidité-là, elle est pas consubstantielle à l'individu, elle émane d'un milieu social, quoi.
Et la timidité, elle peut être aussi situationnelle, hein, c'est ce qu'on se disait. Nicolas Rebout, vous êtes avec nous. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes avocat, habitué des plaidoiries. Et je crois que vous ne dites pas que vous avez vaincu votre timidité, mais que vous serez timide à vie, en fait.
Oui, je crois qu'on n'est jamais un véritable ancien timide. Alors c'est vrai que je retrouve parfaitement dans ce qu'on dit les autres intervenants sur le fait que ça fait partie de l'expérience de la vie, et que je pense que la timidité est d'abord, et pour moi en tout cas, a été souvent situationnelle. Mais forcément, plus on est jeune, moins on a connu de situations inconnues, étrangères, si je puis dire. Et puis on avance dans la vie et dans l'expérience. bah justement, l'expérience fait que on a apprivoisé certaines choses et qu'on est plus rassuré et plus serein face à certaines situations qu'on connaît déjà. Et voilà. Et moi, je sais que je pense que oui, dans la petite enfance. Moi, je suis le dernier d'une fratrie de deux frères qui sont assez écartés en âge les uns des autres avec moi. Je suis le dernier des derniers. Mais mes parents, j'ai pas de souvenir qu'ils étaient timides particulièrement. Je pense que c'est venu comme ça. Mmh. Mais dans ma famille, j'avais assez de bienveillance et d'amour pour ne pas paraître timide. Il y a eu certaines situations qui ont démontré justement que il y a peut-être un truc.
On va détailler ces situations ensemble. Vous allez nous raconter justement cette enfance de timide.
Eh ben oui,
Yasmine nous glisse.
C'est très très juste.
Et toi, tu es timide.
Oh, oui.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Alors, quand la timidité devient un handicap invisible, que peut-on faire pour en venir à bout? Vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à réagir par téléphone au 01 45 24 7000. On attend vos témoignages pour en discuter ensemble. Nicolas Rebaud, on l'a dit, vous étiez un enfant timide. On peut le dire, vous êtes issu d'une famille de comédiens. Votre père et votre frère, je crois, sont comédiens. Comment avez-vous évolué entouré de deux personnalités comme les leurs?
Alors, je vous corrige, c'est mon oncle qui était comédien, le frère de mon père et
mais
mon
votre frère
aîné.
Ah oui,
mon frère aîné, absolument, voilà. et comédien. C'est aussi comme ça que j'ai fini par la dompter ou l'apprivoiser, cette timidité, c'est que je me suis rendu compte au fur et à mesure, non seulement qu'il y avait de la bienveillance et de l'amour dans le cocon familial, donc ça, j'étais plutôt à l'aise et rassuré, mais que finalement, le monde était plutôt bienveillant. Mais il a fallu un peu de temps pour apprivoiser ça, parce que c'est pas simple quand on grandit de s'en rendre compte tout de suite et quand on est un peu timide. Donc c'est un peu comme ça, c'est en me disant bah voilà, il y a des gens dans ma famille qui finalement ont une exposition publique, alors pour autant, alors je parle plus facilement, je dirais de mon frère que je connais un peu mieux que mon oncle, mais pour autant ça n'empêche pas d'avoir des tortures internes, etc. Mais en revanche, dans l'exposition publique, j'ai pu voir qu'en effet on pouvait ne pas craindre de s'exposer publiquement sans recevoir forcément des foudres, des colères. Enfin, c'est tout ce qu'on peut imaginer quand on est timide et qu'on n'ose pas faire quelque chose, finalement.
Alors, justement, quand vous étiez cet enfant un peu terrorisé, ça se manifestait comment? Est-ce que c'était en classe, par exemple?
Bien sûr, en classe, avec le fait, finalement, on dit souvent, il est très sage, il fait pas de bruit et tout. Oui, il est très sage parce qu'il n'ose pas non plus faire de vagues. Il a peur de se faire gronder. Donc c'est pour ça, j'essaye de faire le moins de vagues possible. Et dès qu'on haussait un peu le ton sur moi, alors je parle pas forcément de mes parents, mais plutôt des instituteurs, etc. Forcément, ça me bloquait un petit peu. Et pareil pour participer en classe, c'est clair que j'étais pas du tout le premier à lever le doigt. Et en grandissant, il y a cet épisode dont je me rappellerai, je pense, toute ma vie, parce qu'il a été un peu récurrent dans mon adolescence, donc un peu plus grand, presque à la majorité. C'est que c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais à l'époque, il fallait téléphoner pour commander des pizzas quand j'avais 17-18 ans, et je n'osais pas le faire. Et je n'osais pas le faire, c'était quelque chose qui me bloquait complètement de faire le numéro de la pizza pour commander. Et donc je demandais à ma mère de le faire, qui souvent acceptait, et aussi souvent se faisait engueuler par mon père d'accepter de le faire, parce qu'il comprenait pas pourquoi à 18 ans et avec presque 1m90, j'étais pas capable de commander une pizza.
Donc ça, c'était une incapacité totale de vous exprimer là au téléphone. En tant qu'ado, ça ressemblait à quoi cette vie d'ado timide? Parce que c'est la période où on a des rapports sociaux très importants entre les amis, les flirts. Comment vous viviez ça?
Alors, sur les amis, justement, quand c'est des amis, ils sont plutôt bienveillants avec vous, donc il y a un truc assez facile qui s'instaure. Sur les flirts, je pense que j'étais pas le premier. Ça, c'est clair que j'étais pas le premier et le plus courageux à faire la bise d'abord aux filles, puisque voilà, c'est un peu comme ça que ça se fait. Puis après, à flirter, je pense que voilà, j'ai été un des derniers, parmi mes amis en tout cas, à flirter, etc. Mais voilà, ça se manifeste comme ça. Alors, c'est pas forcément un handicap, mais en revanche, vous remarquez en effet que vous avez un peu de retard par rapport aux autres, sans pour autant vous morfondre, mais c'est sûr que ça joue le rapport aux autres, l'assurance en tout cas, ou la sérénité par rapport aux autres, ça joue beaucoup quand vous êtes timide, quand vous avez l'angoisse ou la peur de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, qu'est-ce qu'on va me dire, quel est le regard des autres sur moi.
Et le regard de vos parents sur cette timidité, quel était-il ?
Bah, bienveillant, mais parfois, comme je vous disais sur l'épisode de l'anecdote de la pizza, une incompréhension de mon père qui comprenait pas comment je demandais à ma mère à 18, 17, 18 ans de commander une pizza pour moi un vendredi ou un samedi soir. Et du côté de ma mère, bah, j'étais son dernier fils, donc un peu chouchouté forcément et coucouné. Donc j'avais une extrême bienveillance. Mais je pense que ça a aidé. Je veux dire, je reproche ni à l'un ni à l'autre de l'avoir fait, pour le coup, d'avoir réagi comme il a réagi, parce que c'est sûr que ça peut être un peu interrogeant dans ces cas-là, mais voilà, c'était comme ça qu'il réagissait. Il y avait plutôt une envie d'accompagner, donc plutôt d'être en effet d'être en support
et d'être bienveillant. Ça vous l'avez
d'être
dit.
D'être bienveillant, ouais. C'est clair.
Professeur Antoine Pellissolo, doit-on inciter un enfant timide à aller vers les autres ou se dire qu'il y viendra à son rythme?
Alors c'est plutôt la première réponse, c'est-à-dire qu'il faut inciter, alors de manière tout à fait bienveillante, hein, pour reprendre ce terme-là qui est le meilleur, c'est-à-dire sans brusquer, sans juger surtout. Il faut éviter tout un tas de termes, notamment celui de timide, bizarrement, parce que on a vite fait d'installer un enfant dans une image qui est celui de l'enfant timide justement, à qui on demande moins de choses, auquel on s'attend à des comportements, et c'est très difficile pour un enfant de le vivre hein, en se disant bah voilà c'est l'image qu'on me donne. Et je vais jamais changer, et c'est plutôt quelque chose de péjoratif ou de négatif. Donc c'est plutôt l'accompagner vers des expériences nouvelles, surtout en montrant l'exemple, et je pense que ce qu'on vient d'entendre là, c'est ça, quand ça se passe bien, c'est qu'on a des exemples positifs de savoir-faire social, de compétences, et aussi de la manière dont c'est reçu par les autres, pour relativiser toutes les anticipations qu'on peut avoir. Donc s'appuyer sur l'exemple qu'on peut donner, sur l'incitation, sur surtout, on dit le renforcement positif, c'est-à-dire de récompenser, de féliciter
valoriser.
Quand ça se passe bien, valoriser. Et la timidité classique, on va dire, elle va s'améliorer au fur et à mesure des expériences positives, puisque c'est toujours la première fois qui est difficile, un peu moins la seconde, etc. Et donc les parents peuvent être très utiles pour justement accompagner, vraiment de manière non jugeante. Que c'est pas t'es pas capable de, tu peux pas faire ça, c'est plutôt de manière positive, et aussi en donnant l'exemple, hein, parce qu'on voit bien des enfants qui, en fait, ont été élevés dans des familles qui étaient peu sociables, pour X ou Y raisons, notamment anxiété sociale, qui, en fait, n'ont pas, on disait aussi un peu tout à l'heure, les codes et les savoir-faire, notamment d'affirmation de soi, de savoir-faire relationnel. Et ça peut être favorable de trouver des alternatives quand c'est nécessaire. Et donc, par exemple, de profiter des occasions familiales, des occasions amicales ou autres pour mettre l'enfant en situation.
Pour prendre la parole, par exemple. Clara de Giovanni, en préparant cette émission, j'ai bien compris que vous étiez, vous aussi, timide. Quel souvenir vous avez de cette timidité pendant votre adolescence?
Alors moi, j'ai une timidité qui est plutôt situationnelle. Donc je ne suis pas timide de caractère. Et je dirais que les gros pics de timidité me sont venus plutôt après l'adolescence, quand j'ai commencé ma vie professionnelle et que j'ai dû découvrir d'autres codes, d'autres milieux. Et là, j'ai commencé à me focaliser sur ces épisodes-là et à les ressasser, en fait. Et ça, je pense que c'est une des manifestations de la timidité, c'est le souvenir presque traumatique de cette fois-là où on a dit le mot de trop, la phrase maladroite, où on s'est pas assis de la bonne façon, où moi j'avais un accent méridional que j'ai effacé, c'est un peu triste, mais je trouvais que les gens j'avais l'impression qu'il y avait une forme de jugement, donc j'ai découvert l'inhibition plutôt après l'adolescence. Et c'est une des dimensions de la timidité que je trouve assez vicieuse. C'est la manière dont elle ressurgit parfois de manière un peu traumatique.
Oui, c'est ça. C'est exactement ce que vous décrivez. C'est vraiment de l'ordre du traumatisme. Alors, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur cette période de l'adolescence qui est très particulière. La plus célèbre des ados timides, c'est bien évidemment Charlotte Gainsbourg. On l'écoute à 14 ans, interviewée sur le plateau d'Antenne 2 en 1985.
Voilà, alors avec nous Charlotte Gainsbourg, bienvenue sur ce plateau, mais vous avez l'air d'avoir un trac épouvantable, hein, je comprends très bien, parce que c'est sûrement pas facile, mais c'est plus difficile de venir ici, au journal télévisé, ou de tourner un film avec Claude Miller ?
De venir ici.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une petite fille effrontée, Charlotte ?
C'est une fille qui... C'est dur à dire, parce que... C'est une petite fille qui voit une autre petite fille qui représente pour elle tout ce qu'elle voudrait être.
C'est dur parce qu'il faut regrouper tout le titre du film, toute l'histoire en même temps.
En un seul mot, c'est sûr. Oui, mais c'est un beau titre, d'ailleurs. Votre mère, elle chante, elle fait du cinéma, elle fait du théâtre. Votre père, il fait de la musique, il écrit aussi. Alors vous, vous avez envie de vous diriger vers le cinéma? C'est déjà un choix? Ou bien qu'est-ce qui vous intéresse le plus?
Je sais pas.
Pas encore, vous savez pas? Là, le cinéma, vous aimez bien ça, en tout cas.
Oui, je sais pas.
Vous savez pas encore?
On sent Charlotte Gainsbourg terrorisée sur ce plateau de télévision. Elle n'a que 14 ans. Comment vous... On sait qu'aujourd'hui, hein, elle est bien différente. Comment on travaille avec ces adolescents en cabinet?
Alors là, typiquement, je pense que bon, c'est un cas particulier, parce que quand même, c'est un exercice très compliqué, hein, évidemment, à cet âge-là. Mais en général, ce que l'on voit chez ces adolescents, c'est vraiment de l'anxiété sociale, en fait. C'est vraiment de la peur et de l'anxiété. Et donc, on le travaille, notamment dans les thérapies comportementales, comme les autres formes d'anxiété, en travaillant d'abord sur, en gros, la source. Qu'est-ce qui déclenche cette anxiété? Ben, c'est l'image que j'ai de moi-même. Et l'idée que je me fais de la difficulté de la tâche, c'est-à-dire comment je vais y arriver, je vais pas y arriver, ça va être une catastrophe. Donc tout un tas de pensées négatives et d'anticipation qu'il faut mettre à jour et relativiser en se disant par exemple qu'est-ce qui me prouverait que je serais pas capable de parler à telle personne, comment je vais être réellement jugé par les gens, parce qu'il y a toujours une amplification vraiment gigantesque de cette espèce de tribunal social dans lequel on va devoir passer parce qu'on va rencontrer quelqu'un ou on va parler avec des personnes qu'on ne connaît pas. Donc, relativiser ses anticipations. Et puis ensuite, en gros, tout bêtement, s'habituer. Et donc ça, on le fait par une préparation. Alors, qui peut être en effet d'abord dans les thérapies, un entraînement. En fait, on va être soit à deux, soit dans un groupe où on va s'habituer à supporter le regard de l'autre ou à s'habituer à dire des choses devant les autres. Et puis ensuite, dans la vraie vie, petit à petit, donc, on peut appeler ça de l'exercice, en fait, pour s'habituer à supporter l'anxiété que ça déclenche. Et l'anxiété, en fait, diminue d'elle-même, puisque en étant confronté à la réalité qui va permettre de supprimer toutes les pensées négatives qu'on avait sur l'anticipation, sur on va me jeter des tomates parce que je vais être ridicule, enfin tous ces jugements-là, on va les confronter à la réalité de ses propres compétences, et donc cette anxiété va baisser petit à petit. C'est pas miraculeux, hein, c'est pas comme ça une baguette magique, mais c'est vraiment par un travail régulier et avec surtout la confrontation à l'image qu'on a de soi-même, parce que le but c'est pas juste de se jeter à l'eau comme on pourrait dire, voilà, il faut juste se confronter. Ça, c'est sûr qu'il faut se confronter à un moment donné, mais en étant préparé et en surtout en débriefant ensuite l'image qu'on en tire. C'est vraiment à chaque fois se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour garder les éléments positifs en fait des confrontations, parce que l'anxiété sociale en fait se renforce par des espèces de, on disait, de traumatismes tout à l'heure, c'est-à-dire tout ce qui va rester, surtout quand on en parle à personne, parce qu'on va avoir que ça, on va avoir que les aspects négatifs de l'expérience.
Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis sur France Inter.
La timidité a souvent été perçue par notre société comme une faiblesse, un frein à la confiance en soi et à l'expression. Pourtant, elle n'empêche pas d'être heureux, ceux qui l'apprivoisent. Pour ça, il faut travailler un peu.
Au début, j'étais tellement stressée, mais vraiment, c'était au moment où sur Facebook on me disait bah écoute tu peux venir tel jour telle heure, j'avais déjà les jambes qui tremblaient et tout de stress, tu vois. Et mes premières scènes, c'était un niveau de stress mais que je peux pas te symboliser tellement c'était important. Parler devant des gens et les faire rire, je pense que tu faisais une marmite de tout ce qui me faisait peur dans la vie, tu mélangeais et ça donnait monter sur scène devant des gens, quoi. Au début j'étais tellement stressé que c'était juste apprendre un texte par cœur, le réciter devant des gens sans faire de faute et pas mourir de stress et me faire évacuer sur scène, c'était déjà l'objectif. Mais là où je suis content, c'est que tout ce qu'on me reprochait en cours de théâtre ou dans la vie, c'est ce qui fait que je pense que ça met une petite singularité sur scène. Mais au fond de moi, il y a toujours un petit mec de 15 ans qui est terrifié et qui dit « mais pourquoi je fais ça ?» Donc ça, je pense que ça se perdra jamais. Je pense que je parlerai toujours tout doucement et tout.
Vous avez peut-être reconnu l'humoriste Paul Mirabel interviewé par Oumar Diawara pour Slash. Alors, il en a fait son métier d'être sur scène malgré sa timidité. Nicolas Rebaud, vous aussi, ce métier d'avocat que vous exercez aujourd'hui, il semble un peu aux antipodes de votre personnalité d'enfant.
Ah bah oui, complètement, complètement. Mais là où je trouve une différence dans ce qui a été dit et ce qui est dit par Paul Mirabel, c'est que justement moi, dans mon souvenir, quand j'étais donc enfant, adolescent et puis maintenant, c'est qu'il y a une espèce de fulgurance qui se manifestait. Notamment, par exemple, quand je récitais des poésies, quand on nous demandait pour des spectacles de fin d'école de jouer des pièces de théâtre, etc., où j'ai eu parfois parmi les premiers rôles, eh ben là, la timidité, elle s'échappe. Enfin, tout d'un coup, vous avez comme un écran qui se fait entre vous et le public et quelque chose.
Et là, vous ne racontez pas cette anecdote où vous faites Michael Jackson ça, vous la taisez.
Je peux complètement la raconter, mais c'est vrai que c'était assez étonnant, mais bah pour les premiers témoins de ça qui pouvaient être mes parents, notamment dans les fêtes familiales, etc. Puis après dans les booms ou les surprises parties auxquelles on m'invitait, c'est que j'étais extrêmement fan de Michael Jackson et donc je m'entraînais à danser comme lui à base de cassettes VHS passées au ralenti sur un magnétoscope et donc je me produisais en public quand on mettait Michael Jackson et qu'on me demandait de le faire et là je voyais pareil un cercle se former autour de moi et je me disais finalement voilà je suis plutôt cool les gens m'aiment et la vie
et à ce moment-là la timidité elle se manifestait pas on a l'impression professeur Antoine Pellissolo que vraiment c'est par intermittence pour certaines personnes mais au-delà de tout ça en fait ce qui est assez encourageant c'est que j'ai l'impression que elle est clairement surmontable pour ceux qui en ont l'envie, qui ont une motivation.
Oui, c'est vraiment un des traits dont on peut se libérer, notamment avec la motivation. Et là, ce qu'on entend, c'est quelque chose qui n'est pas comme ça envahissant complètement quand il y a des secteurs dans lesquels on se sent plus à l'aise. Donc là, ça peut être la danse, ça peut être la prise de parole en public pour certains ou d'autres situations dans lesquelles d'abord on aime faire les choses, on est motivé, et puis ensuite on se sent plus en confiance. Et donc on peut s'appuyer sur ces situations dont on peut faire son métier. Dans certains cas, effectivement, c'est le cas de certains artistes, ou en tout cas qu'on peut utiliser pour construire un petit peu sa confiance en soi, pour pouvoir petit à petit s'habituer à supporter toutes ces situations du regard de l'autre. Donc on peut tout à fait en sortir à tous les degrés, je dirais. La timidité simple, on va la surmonter de toute façon. L'anxiété sociale, même un petit peu plus gênante. Alors en faisant des efforts, c'est vrai que parfois il faut, comme on dit, aller un peu plus loin que sa zone de confort, s'exposer à des choses en étant un peu préparé, mais vraiment, c'est pas monolithique. Enfin, c'est rare que ça soit complètement envahissant au point de pouvoir rien faire tout seul.
Quand elle est anxiété sociale, le mieux, c'est quand même de se faire accompagner.
Quand il y a vraiment une gêne importante, un handicap, et que ça dure. Puisque dans certains cas, ça va être, notamment chez les petits ou chez les adolescents, ça va être quelques temps de difficultés et après ça passe. Mais si ça dure plus longtemps, et il faut être attentif quand on est parent, parce que c'est pas toujours très visible, hein. Les jeunes cachent aussi pas mal de leurs ressentis, donc il faut être un petit peu à l'écoute, parce que l'avantage encore une fois, c'est que quand on l'identifie cette difficulté, et elle est assez simple d'ailleurs, quand on en parle aux gens, ils se disent tout de suite, ah oui c'est moi ça, d'être en permanence dans l'inquiétude du regard de l'autre, mais on peut tout à fait trouver les bons leviers, et il y a plein de solutions qui marchent, notamment pour l'anxiété sociale.
Et ça c'est positif et c'est encourageant pour ceux qui nous écoutent éventuellement. Clara de Giovanni, vous êtes toujours avec nous à distance, je crois que vous vouliez réagir.
Oui, dans les côtés positifs de la timidité, il y a un mot qui me vient, qui est le mot intensité, qui vient aussi de l'anecdote sur Michael Jackson. C'est que je pense que les timides sont aussi des gens très intenses au sens où ils sentent énormément leur corps. Donc il y a le philosophe Alain dit que la timidité est une révolte du corps. Mais quand on arrive à apprivoiser cette révolte qui fait que le cœur tambourine, qui fait qu'on se sent cette espèce d'énergie vitale dont on a l'impression qu'elle est très bruyante, ça peut donner des moments d'intensité, d'allégresse et faire qu'on vit tout un peu plus intensément que la moyenne. Et je pense que la timidité est assez proche de l'émotivité, de l'hypersensibilité. Et c'est une manière de la sublimer et je pense que les moments le timide ne cesse pas d'être timide quand il se met en scène. Je pense juste qu'il est en pleine sublimation de sa timidité qu'il vit beaucoup plus intensément.
Alors sans aller jusqu'à monter sur scène et à s'exposer, il existe d'autres moyens pour vivre avec sa timidité. Pour vous, je crois que ça passe par la narration. Racontez-nous.
Oui, alors c'est une méthode que j'ai trouvée il y a quelques temps qui est de raconter presque de manière institutionnelle, donc des groupes d'amis, presque des sortes de tables rondes où chacun raconte ses moments de honte, de bévue sociale, etc. Et c'est des moments déjà très drôles. Et c'est vraiment des moments où on se rend compte que même le plus extraverti de nos amis a vécu des moments de gêne, de malaise, de ces fameux pics de timidité. Et il y a quelque chose d'extrêmement libérateur. C'est comme si, à partir du moment où on mettait en récit ces gaffes, ces timidités, on se les réappropriait, on rendait ça amusant. Et pour moi, ça a été une des meilleures techniques que j'ai trouvées, plus que l'art oratoire, etc. C'est accepter que dans la vie, il y a des moments bizarres de gaucherie, de maladresse, des moments angoissants, et finalement de les raconter aux autres et de se rendre compte que les autres en ont plein des histoires comme ça. Et il n'y a rien de pire, je pense, que de garder ça pour soi et de le monter en épingle comme la pire honte de sa vie qu'on racontera pour rien au monde.
Et c'est ce qui peut créer aussi des traumas comme ceux que vous avez peut-être déjà vécu. Donc on utilise la narration, on utilise l'humour, hein, je crois que c'est ce que vous voulez dire. Quels sont pour vous, Clara, les atouts cachés de la timidité ?
Je dirais, pareil, si je devais résumer en un mot, ça serait la délicatesse. Je pense que les timides ont une faculté d'observation et de finesse qui les rend assez justes dans leur rapport aux autres et assez justes dans leur prise de parole. C'est-à-dire que le timide qui va pas s'exprimer pendant toute la réunion, souvent il va avoir la petite phrase synthétique qui permettra de tout résumer. Et par ailleurs, ce que je trouve philosophiquement assez beau dans la timidité, c'est que la timidité, elle ouvre une brèche. C'est-à-dire qu'il va y avoir cette espèce d'écart entre l'image qu'on veut donner de soi et ce qu'on donne réellement, entre ce qu'on voudrait que notre corps fasse et ce qu'il fait réellement. Et cet écart-là crée une espèce de fragilité qui humanise assez profondément les rapports. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un est timide, ça oblige un peu les autres à, s'ils sont empathiques évidemment, mais à adopter un comportement qui est très empathique et très humain. Donc moi, je pense que les timides sont hyper nécessaires à la bonne tenue de la vie sociale collective. Et je pense vraiment que si on était entouré, s'il n'y avait que des extravertis, on ne s'entendrait plus parler.
Mais ça, donc, je pense que vous avez totalement raison.
Je fais un éloge des timides, quoi.
Et ça fait du bien d'entendre des mots positifs, justement, sur cette timidité. Nicolas Rebaud, je crois que vous aussi, vous êtes assez loquace quand il s'agit de parler de cette timidité et de ce qu'elle vous apporte aujourd'hui dans votre personnalité et même dans votre métier.
Ah oui, complètement. Mais comme je le dis, donc on apprivoise cette timidité, on l'a jamais totalement vaincue. Et je pense qu'en effet, elle me sert au quotidien, parce qu'il y a toujours ce petit enfant, cet adolescent de 17 ans qui n'osait pas commander des pizzas, qui m'habite quelque part dans ma profession. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis avocat au barreau de Paris. Donc, comme vous le disiez, je dis à certains procureurs que quand ils requièrent des choses, c'est n'importe quoi, etc. Donc je me dis, mais c'est marrant. La robe, finalement, quelque part, est-ce qu'elle me protège pas aussi là-dessus, parce que on est beaucoup moins bon avocat pour sa vie quotidienne qu'on l'est pour ses clients. Et je pense aussi que cette timidité, évidemment, elle permet de garder les pieds sur terre. Je dirais que avant une plaidoirie, j'ai toujours le trac. Et c'est normal. Et je préfère l'avoir toujours que de me dire, oh là là, ça va être facile ce dossier, tranquille, les doigts dans le nez, je vais plaider et tout. Non, jamais. Même si j'ai l'habitude de plaider devant certaines chambres et devant certains tribunaux, donc il y a des juges que je connais un peu plus que d'autres, il y a toujours le trac avant de plaider. Et ça, je pense que c'est important de l'avoir, de jamais être trop confiant sur un dossier, de toujours se remettre en question, se challenger sur son dossier pour défendre au mieux les intérêts de ses clients. Et enfin, dans une profession quand même comme avocat qui comporte beaucoup d'ego, je pense que le fait d'être timide ou d'avoir domestiquer sa timidité, c'est de jamais avoir le boulard et de jamais avoir une pastèque à la place de la tête. Donc de toujours avoir une certaine humilité qui, avec l'empathie, la bienveillance, est pour moi une des qualités nécessaires dans la vie.
Dans votre métier aussi d'avocat, ouais, d'ailleurs.
France Inter. Grand bien vous fasse. Yasmine Ouglis.
Alors, fort de tout ce que nous nous sommes dit, essayons de réfléchir ensemble à ce qui pourrait aider les enfants timides à ne pas en souffrir. On a reçu beaucoup de messages ce matin. Je vais vous lire l'anecdote d'Alice. Elle dit « Quand j'étais en CP, la maîtresse m'a demandé d'aller toquer dans chaque classe pour savoir à qui était un pull perdu en cours de récré. Je n'ai pas osé, je suis restée pétrifiée dans les escaliers. J'ai attendu 5 minutes et je suis retournée en classe en disant qu'il était à personne. Maintenant, à chaque fois que je n'ose pas faire quelque chose, je repense à ce moment et j'ose le faire. » Donc, elle était timide quand elle était enfant. Aujourd'hui, elle se sert de cette anecdote pour se dépasser finalement. Professeur Antoine Pellissolo, est-ce que vous auriez un exercice pratique à faire au quotidien avec son enfant? Par exemple, lui demander d'aller commander de pain à la boulangerie?
Oui, alors de vraiment trouver des occasions de la vie quotidienne pour juste oser effectivement parler à d'autres personnes, notamment les personnes un peu intimidantes, c'est-à-dire les adultes ou les personnes qu'on connaît moins. Il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi maintenant beaucoup assez facilement, c'est la vidéo et le fait de les entraîner à se revoir ensuite et pour relativiser toutes les craintes qu'on peut avoir, c'est aussi valable pour les adultes, c'est quelque chose de plutôt utile en préparation, mais c'est vrai qu'après il faut passer dans la vraie vie et donc ça c'est les échanges. En effet, par exemple, dans chaque occasion, parler à une personne, poser une question quand on en a vraiment des questions, parce qu'il faut évidemment en profiter, mais aussi se forcer un petit peu à demander des renseignements dans la rue, enfin des choses comme ça qui sont tout à fait banales, enfin ça peut paraître très banal, mais pour les personnes timides, c'est à chaque fois une interrogation, qu'est-ce que ça va occasionner, je suis pas capable, je vais paraître timide aussi.
C'est toujours la peur du regard de l'autre, on est d'accord?
C'est toujours la peur du regard de l'autre sur parfois des détails. Alors des détails qui n'en sont pas pour les personnes concernées, ça va être je vais bafouiller, je vais rougir, je ne vais pas être capable de faire telle ou telle chose. Et donc, il va y avoir des conséquences graves. Et c'est ça aussi qui est très amplifié, parce qu'on ne risque rien réellement dans ces situations assez banales, mais il y a tout un scénario, tout un film qu'on se fait, et c'est ça qu'il faut démonter, déconstruire complètement par l'expérience. Ça passe vraiment par l'expérience vécue, avec le type d'exemple que vous avez donné, par exemple, de s'adresser à des gens qu'on ne connaît pas.
D'accord, ça c'est plutôt pas mal. Est-ce que la pratique d'un sport collectif peut être bénéfique aussi?
Bien sûr, chaque fois qu'il y a, alors d'une part une activité plaisante, il faut quand même aussi passer par des choses motivantes, mais quelque chose qui se fait avec d'autres, en groupe ou sous le regard d'autres personnes. On parle souvent du théâtre, on parle aussi souvent, moi je trouve que c'est plutôt très bien vécu, le chant, les chorales, tout ce qui se fait en groupe, ce qui permet de s'exprimer avec en général quelque chose d'un peu protégé, parce qu'il y a le groupe, parce qu'il y a un rôle, parce qu'il y a une fonction qu'on maîtrise, mais c'est un exercice de plus. Donc toutes les activités sociales, quoi, tout bêtement, et dans lesquelles on peut prendre du plaisir et s'habituer au regard.
Au regard des autres. Et on a reçu aussi notamment un message de Virginie qui me disait qu'elle était très timide jusqu'à ses 20 ans. Alors elle a fait du théâtre. Nicolas Rebaud, est-ce que vous pensez que pour un ado timide comme celui que vous étiez, le théâtre ça aurait pu être une bonne chose?
Oui, alors moi je m'y suis pas du tout tourné parce que je sentais pas de fibre artistique en moi malgré un héritage familial, mais je le sentais pas. Mais je pense que oui, je suis tout à fait d'accord avec le professeur Pellissolo sur le sport collectif. Moi j'ai fait du basket et je fais du volley maintenant et je pense que ça aide beaucoup dans le ressenti envers les autres et dans le regard des autres. Et puis j'ai une anecdote par rapport à l'épisode de la pizza. Non commandé au téléphone.
Alors, une anecdote assez courte, si ça vous ennuie pas, parce que très court, on est en direct.
Fait, oui, bien sûr, c'est justement mon frère, mon frère aîné qui est comédien, m'avait dit un jour, mais tu as peur de quoi quand tu commandes une pizza, que le mec te réponde et te dise, mais monsieur, t'es complètement fou de commander des pizzas ici, ça va pas. Enfin voilà, donc toute cette absurdité m'a fait dire, bah ouais, il a peut-être pas trop tort. Donc voilà,
c'est ça a le été le petit déclic.
Ouais, un des triggers, exactement. Ouais.
Eh bien, je vais vous remercier infiniment tous les trois d'avoir pris le temps ce matin, d'avoir accepté de redorer le blason de la timidité, finalement. On ressort de cette émission avec une tendresse encore plus grande pour les timides et des clés pour l'apprivoiser. Clara De Giovanni, on retrouve vos articles dans le journal Psychologie Magazine. Professeur Antoine Pellissolo, Psychologie Magazine, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais même pas.
C'est
Philosophie Magazine. Oui, bah parfois la philosophie et la psychologie se rejoignent d'ailleurs, surtout dans cette émission. Professeur Antoine Pellissolo, on peut retrouver vos deux ouvrages sur ce thème, Ne plus rougir et accepter le regard de l'autre, La nouvelle peur des autres, Trac, timidité et phobie sociale, tous deux aux éditions Odile Jacob. Maître Nicolas Rebaud, un grand merci aussi d'avoir été avec nous. On vous retrouve, vous laisse retrouver vos clients que vous défendez avec un aplomb à faire pâlir les plus grands extravertis. Un grand merci aux équipes qui, comme chaque matin, étaient à mes côtés.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.